On continue avec le monde diplomatique du mois de septembre. Un grand papier sur la Palestine, Dominique Vidal. Il y a une déclaration, je crois, aujourd'hui même, de Yasser Arafat sur CNN, qui considère que l'épisode de
feuille de route
est un échec.
Oui, ce que dit Arafat est une réalité. La feuille de route a été balayée par l'explosion de violence à laquelle on assiste depuis plusieurs semaines. L'intérêt du papier de Graham Scher, c'est qu'il permet de resituer ce contexte particulièrement tragique dans une perspective plus large. Ce qui se passe depuis quelques semaines, c'est pas la peine d'y revenir, je crois, longuement.
Vous aviez cru quand même un peu à la feuille de route.
Jamais. Non, dès qu'on analyse pour vous, on croit. Nous, on est là pour analyser. On n'est pas là pour dire ça va se passer, ça va pas se passer. On est optimiste, on est pessimiste. Ici, on a simplement dit, je m'en souviens, on en a discuté, il y a dans la feuille de route un certain nombre de points d'appui possibles pour les Palestiniens. Sur le pronostic, hélas, il était plus que réservé pour des raisons évidentes. C'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que d'un côté, les groupes islamistes ont repris les attentats kamikazes, aveugles, évidemment injustifiables, monstrueux, etc. Mais le gouvernement israélien a tout fait pour les pousser à rompre la trêve qu'ils avaient signée le 29 juin, avec le refus de se retirer des territoires, avec, et c'est très important, la continuation de la construction du mur, non pas de défense, mais du mur d'encerclement de 40% de la Cisjordanie, avec l'exécution, l'assassinat de dizaines et de dizaines de dirigeants palestiniens, de militants palestiniens, sans compter la palinodie autour des prisonniers qu'on a libérés au compte-gouttes. Bon, tout ça, bien sûr, c'est au fond ce jeu, ce duo pervers entre les islamistes et la droite et l'extrême droite israélienne, auquel on assiste depuis 2 ans et plus. Ce qui est intéressant avec Scher, donc, c'est qu'il permet de resituer ça dans un contexte de 3 ans maintenant, qui est celui de la seconde intifada, qui s'est transformée en impasse pour la résistance palestinienne, et Scher réfléchit aux raisons pour lesquelles on a eu cette impasse. Parce que, il faut y revenir, on a souvent reproché à Yasser Arafat, à l'autorité palestinienne, d'avoir déclenché la seconde intifada. C'est absurde. C'est complètement absurde. Ce qui a déclenché au sens de l'allumette, de l'étincelle qui met le feu à la plaine, comme disait l'autre, c'est la visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées le 28 septembre 2000, qui, sur un fond de dégénérescence des accords d'Oslo, d'échec du sommet de Camp David, a provoqué des manifestations très brutales. Et ce qui est vrai, et on l'oublie complètement dans beaucoup de livres d'histoire, comme ceux de Ehud Barak ou ceux de Shlomo Ben-Ami, par exemple, et puis d'autres de leurs amis français, c'est que l'armée israélienne a réagi à ces manifestations avec une brutalité, une violence absolument incroyable. Elle a fait plus de 100 morts parmi les Palestiniens désarmés à l'époque, en quelques semaines. Et au fond, c'est tout ça qui a fait que l'intifada non seulement a éclaté, mais qu'elle s'est militarisée, qu'elle s'est armée. La première intifada était une intifada désarmée, une intifada des pierres. Et c'est ce qui lui a valu un grand écho dans l'opinion israélienne et dans l'opinion internationale. La seconde armée a posé aux Palestiniens, on voit aujourd'hui, des problèmes beaucoup plus redoutables. Et en Israël, parmi leurs alliés, leurs amis en Israël, et parmi tous ceux qui les soutiennent dans le monde.
Avec un amalgame dans l'opinion mondiale entre la résistance dans les territoires et les attentats suicides. Il y a amalgame dans l'opinion.
C'est là que se situe, si on veut parler de responsabilité de Yasser Arafat et de l'autorité palestinienne, la vraie question. Non pas d'avoir déclenché l'intifada, mais de l'avoir laissé se militariser sans mesurer sans doute bien jusqu'où tout cela pourrait aller, et sans prendre, à un moment où c'était encore possible, les mesures pour diriger l'intifada dans un sens qui soit plus positif, plus productif.
Alors là, concrètement, on repousse la responsabilité sur la politique israélienne qui a été d'affaiblir le camp d'Arafat et les institutions palestiniennes.
Mais c'est plus compliqué que ça, et Scher le montre bien si on prend le temps de le lire. Je crois que c'est un article qui est tout à fait lisible, dans lequel on peut entrer avec un peu d'effort, mais s'informer.
Fatigue,
comme on dit chez nous. Au fond, il y a dans la société palestinienne, la scène politique palestinienne, 3 groupes, pour simplifier. Il y a un groupe qui est celui qui est constitué autour de l'autorité palestinienne. autour de la vieille direction de l'OLP, de tous ces historiques qui sont rentrés en Palestine et qui se sont agglomérés un certain nombre de cadres de la première intifada et qui les ont intégrés dans l'appareil de l'autorité. L'autorité, elle est impuissante, on l'a vu largement du fait de la politique des Israéliens, mais elle est aussi considérée, et à bon droit je crois par beaucoup, comme corrompue, comme non représentative de la société palestinienne en évolution. D'un autre côté, vous avez les groupes islamistes, dont le seul objectif, c'est non pas, comme on dit, de libérer toute la Palestine, parce que la plupart des dirigeants islamistes disent eux-mêmes, quand on parle avec eux en privé, que l'existence d'un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël suffirait en tout cas à mettre fin au conflit dans son aspect armé. Non, leur but, c'est la charia. C'est d'imposer la loi islamiste sur l'ensemble de leurs concitoyens. Et au milieu, vous avez un groupe qui était un peu l'espoir souligné par tous les observateurs, tous ceux qui connaissent les Palestiniens, qui est un groupe des jeunes, du Fatah notamment, mais pas seulement, ce qu'on appelle les Tanzim, c'est-à-dire l'organisation au sens strict du terme, et qui avait présenté une exigence de réforme fondamentale, radicale. D'abord, il demandait une nouvelle direction de l'Organisation de Libération de la Palestine. Une direction représentative des catégories de cadres palestiniens formés, notamment dans la première intifada. Des gens représentatifs de la population, et y compris des couches les plus populaires. Et il y en a beaucoup, vous savez que plus de la moitié des Palestiniens vivent en dessous du seuil de pauvreté, je dis ça au passage. Deuxièmement, il demandait qu'il y ait un nouveau gouvernement, une nouvelle autorité palestinienne, mais purement formée de techniciens, qui ne soient pas chargés des négociations avec Israël. Ça, ce serait l'OLP, cette nouvelle direction de l'OLP qui le ferait. Le gouvernement de techniciens gérerait la situation dans les territoires autonomes. Troisièmement, ce groupe proposait d'aller vers un consensus de l'ensemble des groupes palestiniens, y compris islamistes, autour de l'idée d'une mobilisation forte, politique, y compris à certains égards militaire, mais dans le cadre des territoires occupés, et non pas de lutte armée, a fortiori d'attentats aveugles, en Israël même. Ce groupe, vos auditeurs connaissent sûrement ce nom, il est symbolisé par la personne de Marwan Barghouti, un jeune dirigeant, un peu plus de la quarantaine, qui est aujourd'hui en prison en Israël, et c'est pas un hasard, si on l'a mis à l'ombre, parce qu'il incarnait cette possibilité d'un dépassement de l'impasse actuelle en Palestine. Malheureusement, ce groupe n'a pas réussi, il faudrait expliquer pourquoi, c'est une longue discussion, ce qui fait qu'on est réellement dans une impasse à laquelle le gouvernement israélien a tout fait pour pousser encore plus avant l'ensemble des dirigeants palestiniens et l'autorité en particulier.
C'est là qu'on peut parler de politicide ?
Oui, c'est ce que dit Baruch Kimmerling dans ce livre, qui est un très beau livre. Je conseille à vos auditeurs de se le procurer, de le lire. Il se lit là aussi assez facilement. C'est un objectif qui n'est pas, bien sûr, comme le disent un certain nombre de crétins excités, un génocide. Il n'y a pas de projet de génocide des Palestiniens au sens où il y a eu un génocide des Juifs ou des Indiens ou des Khmers Rouges. Tout ce qui est exagéré ne compte pas, on le sait bien. Mais il y a un projet de politicide, c'est-à-dire de destruction du peuple palestinien en tant qu'entité susceptible d'avoir son État indépendant aux côtés de l'État d'Israël. Et c'est pourquoi, à mon avis, on est arrivé à une phase maintenant où il faut un changement radical. Il faut une rupture majeure, Althusser aurait dit épistémologique, dans la situation là-bas, c'est-à-dire...
Presque toutes vos interventions finissent comme ça. Hein.
Non mais là,
il faut un changement radical.
On a tout fait. On a tout fait en Palestine. Depuis 1947, depuis le plan de partage de la Palestine par les Nations Unies, le 29 novembre 1947, tout sauf deux choses qui, à mon avis, sont les solutions, en tout cas les espoirs de solutions au conflit. Premièrement, placer l'ensemble des territoires palestiniens occupés ou devenu autonome, sous tutelle internationale, sous la tutelle des Nations Unies, que la seule autorité sur ces territoires, ce soit celle des Nations Unies, et deuxièmement, que cette tutelle se dote d'une force internationale composée de l'ensemble des pays susceptibles d'apporter leur contribution. En premier lieu, les États-Unis. Il est évident qu'il ne peut pas y avoir de force de ce type sans une participation américaine importante. Et cette force serait chargée de servir de tampon, assurant la sécurité des uns et des autres. Des Israéliens, bien sûr, contre le terrorisme des groupes islamistes, mais aussi des Palestiniens contre le terrorisme d'État, de l'armée israélienne. Et je crois qu'il y a là un cadre nouveau auquel il faut réfléchir, sur lequel il faut avancer, parce que sinon, on va vers une catastrophe généralisée dans laquelle il n'y aura plus ni solution, ni espoir de solution.